Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Tournier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Une heure en France. Bonjour Denis Farou.
Bonjour Frédéric Le Tournier.
Nous sommes au 9e jour de grève dans les transports.
Les commerçants s'inquiètent, les grandes enseignes comme le petit commerce ou les hôteliers. Nous recevons ce midi l'organisation patronale de l'hôtellerie-restauration.
Nous sommes le vendredi 13 avec son lot habituel de superstitions. Nous allons décortiquer la parascavidecatriaphobie, la phobie du vendredi 13. Le sport du vendredi, ce sera de la course à pied, mais de nuit pour corser l'affaire. Le run by night est de plus en plus tendance. Et puis la fête du vendredi, c'est en Savoie, où une station met les petits plats dans les grands pour l'ouverture de la saison.
Les hôteliers, la parascavidecatriaphobie que vous avez très bien prononcé, Frédéric.
Merci.
La course à pied de nuit et Valsonie entre dégustation et concert au ski. Voilà le programme de ce vendredi 13 décembre.
Et commençons par les infos du jour avec Frédéric Dorel.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Des arbres sur la route, des coupures d'électricité, le vent qui a balayé le littoral atlantique jusqu'au massif central a fait un blessé grave dans les Landes.
Un homme de 22 ans hospitalisé à Mont-de-Marsan, un arbre est tombé sur son fourgon. Une rafale à 142 km/h a été relevée à Millau dans l'Aveyron. Par ailleurs, plus de 150 000 foyers sont privés de courant. En Gironde notamment, où les pluies se sont mêlées au vent. La Garonne déborde à Libourne et à Bordeaux.
Et dans le Pays Basque, les rivières débordent avec un pic de crue attendu cet après-midi.
Oui, Anthony Michel, vous êtes à Cambo-les-Bains. On vient d'apprendre dans le Pays Basque qu'une victime était morte de ces intempéries.
Effectivement, on vient d'apprendre la mort d'un automobiliste. Un arbre est tombé sur sa voiture. C'était dans le village de Saint-Hilaire, juste à côté de Saint-Palais. Donc voilà, des arbres au sol, hein, mais aussi de l'eau partout à la Nive qui a donc débordé cette nuit. Et puis ce matin, on constate les dégâts, des caves inondées, mais aussi les habitants surpris par la montée des eaux. Hein. C'est le cas de cet éleveur qui vit juste à côté de la rivière. Il a au dernier moment dû faire monter sa douzaine de brebis et de chèvres dans des voitures car son champ est sous l'eau. On distingue tout juste son terrain par le haut des barrières tout autour. Et puis non loin de là, plus haut, le long de la Nive, ce sont des champs de piments qui sont sous l'eau, méconnaissables. C'est qu'en s'approchant qu'on voit trois piments qui dépassent de l'eau et juste à côté, le maraîcher très inquiet. Hein, tous ces légumes d'hiver sont plusieurs centimètres d'eau. Lui qui avait déjà subi la tempête en 2014, et donc pas mal de dégâts. Et maintenant, tout le monde craint la haute crue que vous venez de le dire, qui doit arriver dans le courant de l'après-midi.
Merci Anthony Michel, France Bleu, Pays Basque, donc où on déplore un mort. 12 départements au total sont en vigilance orange, 8 dans le sud-ouest pour pluie, inondation et vent violent. Vent violent aussi sur les deux départements corse où le trafic maritime est perturbé. Et dans les Alpes, l'Isère et la Savoie sont exposés à des risques d'avalanche. Tous les détails sur notre site internet francebleu.fr. Après les policiers qui se retirent du mouvement contre la réforme des retraites pour avoir obtenu des garanties sur leur régime spécial, les négociations commencent pour les enseignants.
Rémunération, carrière, tout doit être mis sur la table avec le ministère.
Et au 9e jour de grève dans les transports, le trafic est toujours très perturbé en Île-de-France. Même si le taux de grévistes descend à la SNCF, 2 conducteurs sur 3 ont cessé le travail aujourd'hui. Ils étaient 85% au premier jour. Pas de rendez-vous prévu pour l'instant entre gouvernement et syndicats pour discuter. Pas de rendez-vous avant la semaine prochaine.
La menace d'un blocage jusqu'à Noël inquiète évidemment les commerçants, ceux qui jouent une partie de leur chiffre d'affaires à cette période. C'est la Fédération des métiers de l'hôtellerie-restauration que nous recevons dans un instant.
Retraite toujours, le gouvernement commencera à présenter des simulateurs la semaine prochaine, des débuts de simulateurs plus exactement, pour permettre à chacun de mesurer les effets de la réforme en attendant le simulateur officiel qui mettra tout le monde d'accord.
Des policiers attaqués ce matin dans le secteur de la Défense, le quartier des affaires parisiennes.
Un homme a menacé 3 agents dans un sous-sol. Ces derniers l'ont abattu, Emeline Ferry, avec leurs armes de service.
Oui, ça s'est passé en milieu de matinée vers 10h30 dans le quartier d'affaires très fréquenté de la Défense à l'ouest de Paris. L'homme, sans domicile fixe d'une quarantaine d'années, déambule dans un sous-sol avec une arme blanche à la main, une scie, d'après plusieurs sources policières. Et quand il l'aperçoit, un vigile prévient la police. C'est en voyant la patrouille s'approcher que l'homme se met à courir vers les 3 fonctionnaires en menaçant de les tuer. Ils ouvrent alors le feu, tirent au moins à 5 reprises. L'homme s'écroule, touché au thorax et à la cuisse. Il n'a pas pu être ranimé par les secours. Aucun policier n'a été blessé pendant l'intervention. Pour le moment, il n'y a pas d'éléments terroristes caractérisés. C'est ce que précise le parquet de Nanterre qui est saisi de l'affaire.
Merci Emeline Ferry, France Bleu Paris. En Allemagne, une explosion dans un immeuble intrigue tout le monde. Finlande. Elle a fait un mort et 25 blessés à Blankenburg, dans le centre-est du pays. On se souvient de ce chariot élévateur qui a défoncé les portes en bois du ministère de l'Intérieur pendant une manifestation de gilets jaunes. C'était en janvier. Eh bien, le procès débute dans une demi-heure à Paris. 5 personnes sont appelées à comparaître.
Le nouveau président algérien s'appelle Abdelmadjid Tebboune.
Ancien ministre, puis chef de gouvernement d'Abdelaziz Bouteflika, il est élu dès le premier tour avec plus de 58% des voix et dans un climat de défiance générale. Au Royaume-Uni, le brouillard se dissipe.
Il y aura bien un Brexit, dit le commissaire européen Thierry Breton.
Oui, c'est la conséquence de la victoire de Boris Johnson aux législatives. Le premier ministre conservateur obtient la majorité absolue, ce qui lui donne les coups des franges pour larguer les amarres avec l'Europe le 31 janvier. Retour en France, la météo sera encore très arrosée cet après-midi. La seule exception, c'est le sud-est qui aura de belles éclaircies et la douceur prédomine.
9 degrés à Boulogne-sur-Mer, 7 à Dijon, 8 à Orléans, 9 à Valence, 13 à Bordeaux où nous allons courir tout à l'heure, 0 degrés à Valsonnie à 1500 mètres d'altitude pour l'ouverture de la saison de ski. Merci, à plus tard Frédéric Dorel.
Merci Denis, bonne émission.
Prochain rendez-vous avec les hôteliers dans une heure en France.
FranceBleu.fr.
À écouter, à réécouter, à voir et à revoir, à lire et à relire. Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr. France Bleu M, Coldplay. Fans, Coldplay, un coup de cœur France Bleu.
L'invité d'une heure en France, c'est le président hôtellerie de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Bonjour Laurent Duc.
Bonjour.
Est-ce que vous mesurez déjà un impact sur la semaine passée et la semaine à venir avec la grève des transports ?
Alors la semaine passée, on a des vrais chiffres. Paris nous annonce moins 50% d'occupation sur le week-end à partir de jeudi. Sur des manifestations comme la fête des Lumières à Lyon ou le marché de Noël à Strasbourg, on a des reculs entre 20 et 30% de chiffre d'affaires par rapport à une période normale. Et en forecast, dans la semaine à venir, on est déjà à moins 20% par rapport à l'année dernière. Et elle était même déjà entachée par les gilets jaunes depuis novembre.
Ce sont des gens qui n'ont pas réservé ou qui ont réservé puis annulé au vu de la situation ?
Alors, la semaine qui vient de se passer, on a fait peu ou prou moins 10-15% les réservations. Ils étaient déjà engagés, mais en céphalogramme plat quant aux réservations nouvelles. Quoi.
Toutes les périodes sont importantes, évidemment, mais celles avant les fêtes, les particulièrement ou pas pour les hôtels ? Quelle est la clientèle à cette période ?
Elles sont très importantes pour les touristes, puisque une capitale comme Paris, elle attire des touristes pour les courses de Noël. Je pense que si vous allez vous promener au printemps aux Galeries Lafayette à Paris, vous apercevrez qu'il n'y a pas que des têtes blondes et qu'il y a le monde entier qui vient faire ses courses. Et le monde entier qui vient faire ses courses à Paris pendant les fêtes de Noël, et ben ils vont aller à Londres, à Milan, à Rome, à Barcelone, mais ils vont pas venir à Paris. Ou à Dubaï, ou à New York. Hein.
Ouais. Alors vous parlez des capitales, des métropoles. Est-ce qu'il y a des régions hors Paris plus impactées que d'autres en France, ou tout se vaut ?
Je pense que Paris est la plus et la moins impactée en même temps, parce qu'elle a les principales touristes étrangers viennent à Paris ou à Nice, et que la plus grosse arrivée aéroportuaire, c'est Paris. Mais néanmoins, il y a toute cette clientèle française qui a l'habitude de venir à Paris avant les fêtes, et qui finalement va pas venir. Donc elle va manquer et aux hôtels et aux commerçants.
Et d'une manière générale, ce sont les hôtels ou les restaurants qui trinquent le plus dans ces cas-là ?
Alors, les restaurants, ils ont l'opportunité des gens qui ne partent pas et qui finalement consomment sur place, plus ou plus peu ou prou, mais il va leur manquer les touristes, franchement. Mmh. Et les hôtels, eux, ils prennent ça direct, parce que si les gens ne se déplacent pas, ils sont parisiens, ils sont lyonnais, ils sont niçois, ils sont bordelais, et ils restent dans leur ville. Donc, si les fêtes continuent comme ça, les gens ne se déplaceront pas, ils consommeront sur place, si c'est l'hôtellerie qui va trinquer.
Alors, la grève contre la réforme des retraites cette année, après, on s'en souvient, les gilets jaunes l'an passé à la même époque, les perturbations se ressemblent pour vous, ou il y avait moins d'impact avec les gilets jaunes parce que c'était plutôt axé sur le week-end?
Alors, il y en avait, ça dépend de l'activité des établissements et de la destination, mais il est vrai que la semaine, on était moins impacté. Là, on est à moins 20% sur la semaine. Donc, on a un vrai impact sur la semaine. Et c'est l'année survivaliste, c'est l'année 2019. On a commencé avec des gilets jaunes. Après, on a eu les grèves perlées. Ouais. On commençait à remonter doucement la pente depuis juillet. On avait fait un novembre super en France. Et là, on va rater notre mois de décembre. Donc, autant vous dire que les bilans se terminent au 31 décembre. Ils ne vont pas être fabuleux sur 2019.
Est-ce que vous en êtes à réfléchir, à demander des reports de charges sociales à l'État pour passer ce cap difficile pour certains, en tout cas?
Alors, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant l'avoir tué, mais il est évident qu'il va falloir aider les entreprises, parce que leur trésorerie dès janvier-février, puisqu'il y a un report de charges, vont être très difficiles. Et janvier et février, pour les destinations comme les grandes villes en général, sont pas des mois énormes. Donc, ça va être compliqué, oui.
On a parlé des annulations passées ou à venir, des clients qui ne viennent pas avec ces perturbations dans les transports. J'imagine aussi qu'il y a des problèmes avec les salariés qui n'arrivent pas en temps et en heure, ou qui n'arrivent pas du tout, parce qu'eux aussi utilisent les transports, évidemment.
Alors, je pense que l'actualité, tout le monde a noté quand même que les transports urbains n'étaient très perturbés qu'à Paris, puisque eux seuls avaient un régime spécifique, alors que les autres transports urbains des destinations, des métropoles, des autres villes sont au régime général. Donc il y a moins de grèves, effectivement, dans les transports en commun marseillais, lyonnais, lillois, qu'à Paris, puisqu'ils avaient des avantages tels que
sinon
ils bloquent la totalité de la capitale. Donc on n'a pas tout à fait le même souci pour nos personnels. Mais Paris, c'est une catastrophe. On loge les personnels dans nos établissements. On cherche des solutions au jour le jour, quoi, en fonction de ce qu'on a comme annonce de ralentissement des RER et des métros.
Merci pour toutes ces précisions, même si elles ne sont pas réjouissantes. Laurent Duc, président UMI de l'hôtellerie, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Je vous souhaite une bonne journée à Lyon, à Villeurbanne précisément, où vous êtes.
Merci beaucoup, bonne journée.
Voilà la suite du programme sur France Bleu avec Frédéric Le Tournier.
Une heure en France, Denis Farou. Frédéric Le Tournier.
Et nous allons poursuivre avec le phénomène de parascavidé-catriaphobie. Je me suis entraînée, plus simplement la peur du vendredi 13. Nous allons remonter aux origines de cette superstition.
Ce qui est drôle, Frédéric, c'est que le vendredi 13 en France, c'est le mardi 13 en Espagne. En Italie, c'est le 17 qui inquiète, qui fait peur. En Chine, c'est le 4.
Comme quoi. Ensuite, nous allons courir de nuit en Aquitaine. Le run by night serait encore meilleur pour le corps. On se demande pourquoi.
Parce qu'on est mieux connecté, nous dit-on. Connecté à quoi? On verra.
Et on profite de l'ouverture des pistes à Valsigny avec 2 jours de fête au menu.
Alors, puisque vous parlez de menu, il y a des saucisses et de la fondue au chocolat sur les pistes avant un concert en fin d'après-midi.
On vous a mis de côté des cadeaux France Bleu à remporter jusqu'à 14h et on continue en musique avec France Gall.
Quand le désert avance, c'est la vie qui s'en va. La faute à pas de chance, ou Dieu qui nous foudroie. Et le désert avance, plus personne n'y croit. C'est notre déchéance, l'impossible combat. Quand le désert avance, que veux-tu que l'on soit? Les femmes touarec dansent, elles-mêmes n'y croient pas. Dans leurs souvenirs d'enfance, les chasseurs étaient là. Mais le désert avance, le sable devient roi. Et c'est notre souffrance qui coule entre nos doigts. Dans ces dunes immenses, qui donc y survivra? Mais toi qui viens de France, où l'on oublie qu'on boit, dis-leur ce que tu penses, dis-leur ce que tu vois, dis-leur quelle est leur chance, et qu'ils ne la voient pas, et qu'on meurt d'impuissance, mais qu'on garde la foi, que le désert avance, et l'eau n'arrive pas. Sans cette délivrance, nous n'avons plus le choix. Dis-leur que la nuit tombe sur cette affreuse urgence, et que c'est sur nos tombes que le désert avance.
La voix de France Gall pour ouvrir cette heure passée ensemble. Faut que je vous raconte. Non, mais je peux pas faire autrement. Denis Farou est en train de regarder la présentation des Miss France.
Il y en a une Miss qui s'est blessée au pied.
Voilà, mais il y en a une qui vous a beaucoup plu surtout. Hein.
Elle s'est blessée au pied. J'ai
mais
eu
oui,
peur
non,
pour elle.
Non, mais ça va bien se passer. Je rappelle, c'est demain soir. Si vous voulez suivre, c'est sur TF1, l'élection de Miss France. Nous parlons de la peur du vendredi 13 maintenant sur France Bleu.
Une heure en France. Denis Farou, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Parce que nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 qui va provoquer chez certains de l'angoisse et chez d'autres l'envie de jouer à des jeux d'argent.
Pour ce qui est de la peur que provoque cette journée, on appelle ça la paraskevidé-catriaphobie.
Vous en lassez pas de le dire maintenant que vous maîtrisez. Pour remonter aux origines de ces superstitions, nous sommes avec une écrivain et sémiologue spécialisée dans les croyances populaires françaises. Bonjour Marie-Charlotte Delmas.
Bonjour.
Alors, pour ce qui est de votre cas, à vous, comment vous vivez ces journées de vendredi 13 ?
Ou alors, comme toutes les autres journées. Non, je n'ai ni peur, ni je pense que c'est un jour de chance. Souvent, d'ailleurs, je ne sais pas qu'on est un vendredi 13. Donc, je m'en aperçois après. Non, ça...
Pas plus d'impact,
savez,
d'accord.
Alors là, on vous confirme, nous sommes bien le vendredi 13, Marie-Charlotte.
Oui, mais
hein.
Vous savez, quand on passe 25 ans à travailler sur les superstitions et sur leur origine, on n'a plus peur de rien.
Alors, depuis quand focalise-t-on sur le vendredi 13 ? Est-ce que ça remonte à très loin ?
Eh bien non, ça ne remonte pas du tout à très loin. En fait, je n'ai trouvé des occurrences sur ce vendredi 13 qu'à partir de la seconde moitié du 19e siècle, vraisemblablement sous l'influence des loteries qui vont en faire un jour pas ordinaire, donc évidemment un jour de chance. Et voilà, et on trouve quelques textes comme ça qui parlent du vendredi 13 et de la chance du vendredi 13. En revanche, la peur du vendredi et la peur du nombre 13, elles, sont des peurs beaucoup plus anciennes qui sont reliées toutes deux au christianisme et toutes deux à la peur du Christ.
Oui, parce qu'il y a la scène notamment avec Jésus.
Alors, pour le 13, effectivement, il y a la scène, le dernier repas du Christ avec les 12 apôtres, ce qui a donné une superstition assez répandue encore au 19e siècle et connue, parce que moi j'en ai entendu parler au 20e siècle, qui est le fait de ne pas être 13 à table.
Oui.
Voilà, parce que voilà, ils étaient 13 à table, ça leur a pas porté bonheur, il y en a un qui est mort. Et donc, du coup, on disait, si on est 13 à table, c'est un... le signe ou la peur en tout cas était créée que quelqu'un risquait de mourir parmi ces 13 personnes. Donc c'est une superstition qui était courante et on raconte par exemple que Victor Hugo n'avait jamais 12 convives, 13 avec lui à table, et d'autres auteurs en parlent aussi dans leur livre, voilà. Donc c'est une superstition connue, répandue et assez forte. Et celle du vendredi est encore plus ancienne, parce que en fait, le vendredi c'est bien sûr le jour de la mort du Christ, hein, donc on est encore là dans une superstition très chrétienne, et du coup au Moyen-Âge il y avait... tout un tas de textes, enfin tout un tas, il y a quelques manuscrits en tout cas, où on liste toutes les catastrophes bibliques qui se sont produites un vendredi.
Et alors, ça craint alors, il y en a beaucoup.
Alors, c'est un vendredi qu'Adam et Ève ont été chassés du paradis. Ah. C'est un vendredi que Caïn a tué son frère Abel. C'est un vendredi, le saviez-vous, que le déluge est survenu, etc., etc. La liste est extrêmement longue de ce vendredi, qui est un jour triste, un jour de repentance. On mange maigre au vendredi, hein, jusque dans les années 60, on mange maigre le vendredi. On évite de festoyer, bien entendu, on évite de se réjouir, c'est le jour de la mort du Christ. Il y a d'ailleurs un dicton que vous avez peut-être entendu et qui dit « Qui rit le vendredi pleurera le dimanche ». Et qui est lié à cette crainte et à cette repentance du vendredi qu'on retrouve donc dès le Moyen-Âge et qui est encore très très présente durant tout le 19e siècle et le début du 20e où on ne doit rien entreprendre. Un vendredi.
Mais d'ailleurs, on va s'arrêter là parce qu'on va rien entreprendre. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que ce vendredi 13, c'est en France. En Espagne, c'est le mardi 13. En Grèce aussi. En Italie, le 17 porte encore plus malheur que le 13. En Chine, c'est le 4. Ça veut dire qu'on aime bien se faire peur ou se faire plaisir selon les cas, où que l'on soit sur la planète.
Oui, mais alors deux choses. D'abord, ce sont les Romains et aussi vraisemblablement les Celtes qui nous ont légué la croyance en des jours fastes et en des jours néfastes. Et la deuxième chose, c'est que au XIXe siècle, que ce soit en Italie, en Espagne, en Amérique, etc., puis le vendredi 13 sont des superstitions aussi répandues qu'en France.
Alors moi, j'ai lu, Marie-Charlotte Delmas, qu'il y a des gens qui ne voyageaient pas ces jours-là, les vendredis 13.
Oui, enfin, en ce moment, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de train, peut-être.
Bien vu.
Oui, aujourd'hui.
Mais en tout cas, c'est lié parfois à la notion de déplacement.
Alors, c'est lié à la notion de déplacement. Donc le vendredi, on ne voyage pas. Donc ça, c'était quelque chose qui était courant au 19e siècle.
D'accord.
Mais le vendredi, donc il est resté de ce « on n'entreprend rien, on ne voyage pas le vendredi ». Tout ça s'est reporté sur le vendredi 13, où effectivement, on a constaté au 19e siècle que les recettes de la compagnie des omnibus, par exemple, baissaient fortement. Les vendredis 13, de même les compagnies de train, etc. D'ailleurs, il n'y a souvent pas de wagons. Alors ça, c'est pour le 13, mais il n'y a souvent pas de wagons 13, il n'y a pas de chambres 13 dans certains hôtels, etc. Voilà, on continue quand même à avoir de façon séparée ce vendredi, ce 13, et puis les deux, parce qu'on aime bien se créer des petites peurs.
Oui, c'est ça, on aime bien se faire peur. Ouais. Marie-Charlotte Delmas, et si on poursuivait notre conversation le 13 mars, le vendredi 13 mars prochain?
Il y a encore un vendredi 13.
Oh, oui. Et sinon, il y aura le vendredi 13 novembre 2020 aussi.
Eh ben, écoutez, volontiers, on se rappelle.
On se rappelle à ce moment-là. Et d'ici là, on conjure le sort.
Pas de problème, touchez du bois.
Exactement. Marie-Charlotte Delmas, qui a été avec nous, un spécialiste des croyances populaires françaises, auteur et sémiologue. Merci beaucoup.
Bon après-midi à vous et à tous vos auditeurs.
Et je vous rappelle que nous parlions de la paraskevidée quadriophobie.
On va vous insister.
oui, qui vient justement de vendredi, paraskevi, 13, décatreis et phobos, la peur.
Merci pour l'explication, parce qu'on dit ça comme des imbéciles depuis tout à l'heure, mais on ne sait pas d'où ça vient. Donc merci de nous avoir apporté cette lumière en plus, Marie-Charlotte Delmas.
Je vous en prie.
Bonne journée, au revoir.
Bonne journée à tous,
au revoir. Et que cette journée vous porte chance, peut-être pour celui ou celle qui remportera ce support de téléphone France Bleu. On a parlé avec notre spécialiste du chiffre 13, évidemment, du nombre d'ailleurs 13, et de 13 à table. Et bien, c'est aussi le nom d'un recueil de nouvelles inédites aux éditions Pocket au profit des Restos du Cœur. Je vous rappelle que France Bleu est partenaire, évidemment, des Restos du Cœur. Dites-nous, quel est le numéro de cette édition du livre 13 à table? Est-ce que c'est le 5e ou 6e numéro de 13 à table? Vous nous appelez 0810 055 056. Et puis, vous restez avec nous. À suivre, on va courir de nuit. Alors, j'espère que vous êtes bien équipés, parce qu'on va voir que c'est pas sans danger. Il faut quand même des petites précautions avant toute chose. Et puis, à 13h45, on va faire l'ouverture d'une station. Ça se passe à Valceny, c'est ça, Denis?
En Haute-Maurienne, en Savoie, Frédéric.
Deux jours de fête à suivre sur France Bleu.
Si jamais t'oublies le premier regard, tout ce qu'on s'est dit dans le fond du bar. Si jamais la vie n'est pas de mon côté, ne veut pas de nous, non, ne veut plus jouer. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un
jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr. Comme dans nos jeux d'antan, je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo, ma reine, tu as gagné. Je ne suis qu'un fou, un fou. Ta douleur, tu verras, ça ira. Si jamais tu doutes, je te fais la promesse de garder sur ta route les mots, la tendresse. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr. Comme dans nos jeux d'antan, je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo, ma reine, tu as gagné. Je ne suis qu'un fou, un fou.
Pokora sur France Bleu avec son tout dernier titre pour accueillir Églantine qui est en Seine-et-Marne. Oh là, hyper réveillée. Bonjour Églantine, ça va?
Oui.
J'ai pas dit de bêtises, vous êtes bien en Seine-et-Marne?
Exactement.
Où ça en Seine-et-Marne?
Dans votre cave.
Alors, non.
Non, j'habite à Combe-la-Ville, mais je travaille à Rouen, ma maison.
D'accord, pas de souci pour vous déplacer, Églantine?
Si, même si je pars vers 5 heures, c'est délicat en ce moment.
À 5 heures, il y a déjà des bouchons à cet horaire?
Oui, 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 la 6, c'est pas terrible.
Vous avez mis combien de temps là ce matin, bon, par exemple, si vous étiez allé si vous êtes allé au travail?
Ce matin, j'ai mis 1h10 à peu près.
Bon, et les gens sont pas trop énervés, les conducteurs, tout ça? Parce que moi, j'ai l'impression que ça s'échauffe un petit peu quand même, hein, à Paris, en proche banlieue.
Ça va.
C'est le soir.
Quand on est
2h30,
c'est normal d'être énervé.
Oui,
et là, vous êtes sur le retour, Églantine?
En fait, là, j'ai un rendez-vous parce que je suis enceinte cet après-midi, donc j'ai pris une après-midi exprès.
Bah, toutes nos félicitations, Églantine, c'est pour quand?
Merci, c'est pour le 2 juin.
D'accord, bon, bah écoutez, on vous souhaite une bonne grossesse d'ici là. Et, et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je vous ai même pas demandé.
Je suis chocolatière.
Oh, vous n'allez pas chômer, vous?
Bah, c'est pour ça.
Un peu de boulot, bon, en espérant que le commerce continue quand même, on en parlait tout à l'heure, hein, dans Une Heure en France, à bien tourner avec ses soucis liés au problème de déplacement des franciliens. Églantine, on discute, j'avais une question. Quel est le numéro de l'édition de 13 à table, vous savez, le recueil de nouvelles au profit des Restos du Cœur?
Alors, c'est la 6e édition, je pense.
Oui, exactement, vous connaissez ce recueil de nouvelles?
Non. Non, j'ai découvert en entendant justement à la radio là.
Bah écoutez, 5 € et vous offrez 4 repas au Resto du Cœur, donc c'est quand même une bonne action si jamais.
Et les nouvelles de cette année sont excellentes.
Voilà. À mettre au pied du sapin en plus, pourquoi pas. Voilà, Eglantine.
D'accord, ouais.
Nous, on vous offre le support de téléphone France Bleu. On vous souhaite le meilleur à venir et
merci.
Bon courage pour les fêtes, Eglantine. À bientôt.
Merci, bon après-midi.
Vous aussi, bon courage. À bientôt, Eglantine.
Merci, au revoir.
France Bleu.
France Bleu présente Ténor, le nouvel album symphonique de Vincent Niclot. Entouré d'artistes prestigieux, la puissance d'un ténor sur les plus grands airs classiques. Vincent Niclot, nouvel album symphonique, Ténor, un album France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
francebleu.fr. Tout France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr. France Bleu aime la musique live, en français dans le texte. Retrouvez Jacques Dutronc, la fille du Père Noël, l'un des titres de France Bleu part en live, chaque soir sur France Bleu, dès 22h.
Oui d'accord, ça sonne pas très Noël, Chico Buarque, on a envie d'un peu de soleil, d'un peu de Brésil, dans une heure en France, à 13h32, profitez-en, c'est sur France Bleu.
Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida, que é pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rimas, achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Passo de um concerto de flauta e não me desperta emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela, que eu me cansei de cantar. E agora está só na dela, botando só pra quebrar. Mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça.
Vous allez maracas. Oh, moi, j'y suis sur la plage au Brésil, là.
Pourquoi vous dites que ça fait pas Noël? Il y a Noël au Brésil.
Oui, d'accord, mais je sais pas, c'est pas la même ambiance, là. Moi, je voyais plutôt Noël en Alsace, mais peut-être je me trompe. C'était Chico Buarque avec Essa Moçata Diferente sur France Bleu.
Une heure en France. Frédéric Le Tournier, Denis Farou, sur France Bleu.
Et si on découvrait maintenant les bienfaits de la course à pied, mais pas une séance classique, non, 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 le matin, l'après-midi ou le week-end, non, une course à pied de nuit.
Vous voulez dire le run by night?
Vous dites bien.
Courir dans l'obscurité avec une lampe frontale, à première vue, ça paraît un peu saugrenu.
Le run by night est la dernière tendance de la course à pied. On va prendre un cours, donc, avec un coach sportif bordelais. Bonjour Stéphane Pinchot.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça change de courir la nuit, à part qu'on n'y voit pas grand-chose?
Ça change pas mal de choses. Déjà, à part qu'on n'y voit pas mal, on n'y voit pas grand-chose parce qu'on a juste le tracé de sa lampe frontale. On découvre de nouvelles sensations. Je trouve qu'on se recentre un peu sur soi-même. On est moins agressé par les bruits extérieurs qu'on peut vivre pendant la journée. Et on allie le physique, hein, parce que c'est une séance qu'on peut faire physique tout autant qu'à l'extérieur. Et on se recentre un peu sur soi-même.
Stéphane Pinchot, comment se déroule une séance type? C'est par groupe? Vous retrouvez à la tombée de la nuit?
Donc une séance type, on démarre entre 8h, 18h30 et 19h là, depuis un mois. Donc ouais. Il fait nuit depuis un petit moment. En général, ça se passe en groupe. Parce que justement, l'hiver... les filles, notamment, n'osent pas trop courir seules à l'extérieur.
Oui, c'est mieux de pas le faire. Ça
permet de faire une séance de sport et de continuer son running. Mais malgré tout, on se rend compte que à travers le groupe, on est vraiment dans sa bulle malgré tout, parce que il n'y a pas de bruit. Moi, je veux pas qu'on ait la musique. On écoute de la musique. On se retrouve en pleine forêt. On a une nouvelle sensation un peu qui tourne autour de l'excitation parce qu'on se demande si on va pas découvrir un chevreuil, s'il y a des petits bruits. Parfois, on éteint même les frontales pendant quelques minutes.
Ah bon?
Pour travailler quelques étirements et en même temps, on travaille un peu la respiration. Et finalement, je trouve que c'est vraiment un moment à soi. Presque encore plus que se promener en pleine journée en course à pied.
Moi, j'ai entendu dire, vous allez confirmer si vous pensez que c'est vrai, que la course de nuit contribue à augmenter les capacités du coureur par rapport à une course classique la journée. Est-ce qu'on peut le vérifier, ça, ou c'est juste au niveau des sensations?
Au niveau des sensations, après, c'est assez personnel. Moi, je sais que si on me demande d'aller courir, faire 10 km le matin à 8h, je vais être moins performant que le soir à 17h, 18h, 19h. Parce qu'en fait, le fait de pratiquer une activité physique, dont là on parle d'activité physique à la fin de journée, voire à la nuit, bon, ça permet à travers l'activité de se décharger aussi le côté psychique. On se vide. Quand on dit « je suis vidé », en fait, c'est... bon, voilà, j'ai travaillé mon activité physique, mon running, mais je suis bien, je suis zen, je suis vidé dans la tête. Donc ce côté-là, peut-être, c'est sûr qu'il prend le pas sur
en
fin de journée.
Ouais, c'est vrai qu'il faut essayer. Moi, je me demande, par exemple, si vous êtes plus efficace le matin ou la nuit, Frédéric.
Je pense qu'on ne voit pas la nuit, mais le matin, c'est déjà pas mal. Stéphane Pinchot.
Moi, je vous invite sur le bassin d'Arcachon, comme vous voulez.
Alors, Stéphane Pinchot, moi, j'ai une autre question. Pardonnez ma question, mais j'ai vu que dans vos courses, vous finissez généralement face à la mer, mais on ne la voit pas.
Alors, on
la sent
face à la mer.
On la sent, Frédéric.
Alors, moi, j'ai la chance d'être dans un coin extraordinaire là, sur le bassin d'Arcachon. Et les parcours, en général, à un moment donné, on monte la dune.
Ouais.
Et tiens, jeudi dernier, pour prendre un exemple type, il y avait une éclaircie, donc on a éteint les lampes frontales. Et en fait, on se croyait sur la lune. Il n'y avait pas de bruit. Justement, deviner. L'océan face à nous, le bassin. Mmh. Et voilà, c'est encore une sensation nouvelle qu'on n'a pas la journée. Et puis il n'y avait pas un bruit. Ouais. Juste un petit vent. Et voilà, c'est pour soi. C'est vraiment un moment pour soi, je trouve.
Moi, j'imagine.
Et autour de moi, pardon, les pratiquants, en fait, me disent la même chose. Hein. Mmh.
Moi, j'imagine très bien. Ma collègue, un peu moins, parce qu'elle ne pourra pas faire de photos, par exemple.
Ah oui, ça, c'est vrai. Pas de flash.
Alors, ça, c'est pareil. Pas de téléphone. Pourquoi faire?
C'est strict, hein?
Bon, la musique, en général... Non, c'est pas strict. Tout est toujours en ambiance conviviale.
Ouais.
Mais on se rend compte que ça nous fait du bien, donc on n'a même pas le réflexe de prendre le téléphone. On peut pas prendre photo, mais même pour... non, on part comme ça, là, paf, on descend la voiture, on est prêt. Il faut une tenue un peu... un peu sympa aussi, un peu adaptée.
C'est-à-dire? Une tenue de course, en fait, tout simplement.
Une tenue de course...
Mais est-ce qu'on met des bandes réfléchissantes avec... Parce que ça peut être dangereux, quand même, aussi. Enfin, sauf si on est dans la nature sauvage.
On peut. justement, au niveau tenue vestimentaire, maintenant, il existe tout ce qu'il faut par rapport à ça. On a quand même la lampe frontale. On a un petit groupe. Voilà. Et moi, je fais en sorte que même celui qui se sent un peu plus faible au niveau course à pied, ben là, à ce moment-là, on est en groupe. Donc, ceux qui courent un peu plus vite, ils partent un peu, ils reviennent vers nous. Mais on est toujours le groupe soudé. Que chacun arrive à y trouver son compte, en fait.
Mais on ne demande qu'à être convaincu. En fait, il y a toujours un petit peu de méfiance quand on découvre quelque chose. Oui. Et là, je me tourne vers Frédéric Rétorbert.
Non, mais vous êtes terrible, Denis. Mais je ne dis pas que j'essaierai pas. Mais voilà, il faut couper le téléphone, couper la musique. Mais je pense qu'on a accès à de nouvelles sensations.
Voilà, le Run by Night avec Stéphane Pinchot qui a lancé cette activité il y a 5 ans sur le bassin d'Arcachon. C'est dire que vous avez déjà un bon retour d'expérience.
Oui. Run by Night. Merci beaucoup de nous en avoir parlé aujourd'hui, Stéphane Pinchot.
Merci beaucoup.
Belle course à vous, à bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Bonne nuit.
Pasteur, là, il n'est pas parti courir encore. Ah, Denis, bah, vous savez quoi, je vais poser votre question. Vous avez une excellente question à me proposer ce matin. Donc, on va parler de Valsenis où nous serons dans quelques minutes sur France Bleu pour l'ouverture de la saison sur les pistes de ski. Allez-y, donnez-moi votre question. C'est une question géo.
Alors, la station de Valsenis est près de la frontière italienne ou suisse ?
Pas facile, très bonne question, choix judicieux. Vous nous appelez 0810 055 056. La station de Valsenis est-elle proche de la frontière suisse ou la frontière italienne ?
Ou espagnole ?
Non mais... Vous nous appelez maintenant, 0810 055 056. Grec, mais
ukrainienne.
Vous ne gagnez sans doute pas ce qu'on vous propose, ce très beau cadeau France Bleu. Allez nu pour vous concentrer avec Lara Luciani sur France Bleu.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chante ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle, celle dont j'ai l'air? Souvent je change de cœur.
Luciani, la chanson préférée de notre petite fée de l'ombre, l'attachée de production de cette émission Une Heure en France, Gwenaëlle Coupet, qu'il écoute tout le temps, on ne l'arrête plus avec ce titre. Et je suis certaine qu'il vous plaît aussi, c'était Clara Luciani avec Nu sur France Bleu. France Bleu. Et nous retrouvons Nasser. Bonjour Nasser.
Oui, bonjour.
Où êtes-vous Nasser?
Oula, je suis à Saint-Étienne dans le 42.
D'accord. Dans la Loire. Très bien. Et vous habitez Saint-Étienne ou vous y êtes pour le travail?
Non, j'habite la Haute-Loire.
D'accord. Et qu'est-ce que vous faites à Saint-Étienne alors, si c'est pas indiscret?
Je travaille.
Vous faites quoi dans la vie, Nasser?
Je suis éducateur spécialisé.
D'accord. Et là, aujourd'hui, vous travaillez. Donc, est-ce que vous avez eu du mal à arriver à Saint-Étienne ou il n'y a pas eu de soucis?
Non, pas de soucis, non. Ici, il n'y a pas trop de bouchons.
Ici, c'est plus calme.
Vous arriviez du Puy-en-Velay, donc, peut-être?
Ouais, de la 88, voilà.
D'accord. Combien de temps de trajet, Nasser? Moi, j'ai du mal à me rendre compte.
20 minutes, moi, je mets.
20 minutes? Ah, bah, ça va, vous tracez, ouais. Effectivement.
Ouais, pas de soucis.
Nasser, est-ce que vous connaissez la station de Valsoni?
Un petit peu, oui, parce que j'ai été en Italie cet été, du coup, je connais un petit peu.
Ah, mais vous êtes passé par le col du Mont-Cenis, peut-être, alors?
Eh oui.
Ah, voilà. Et vous avez vu ce lac magnifique?
Et j'ai vu le lac, ouais, tout à fait.
Mais qu'est-ce qu'il est fort, c'est ce Denis, hein.
C'est géant, c'est magnifique.
Eh oui.
Alors Nasser, c'était la question de Denis Farou. Du coup, Valsoni, la station est proche de quelle frontière? Une frontière suisse ou italienne? Ou grecque ou ukrainienne?
Bah italienne.
Bah oui, bah, puisque oui, vous coup, êtes allé en Italie.
C'est logique.
C'est la bonne réponse. Effectivement, Nasser, vous repartez avec la station météo France Bleu. J'espère que ça vous fait plaisir.
Ben oui, c'est sûr, oui.
Bon, bah formidable. Nasser, on vous souhaite quoi pour le week-end que vous allez faire?
Me reposer, pour me souhaiter du beau temps, surtout.
Ah, on croise les doigts, parce que nous aussi, on est en manque de beau temps.
C'est pas terrible, ces derniers temps.
Et un peu de lumière, ça fait du bien à tout le monde, ça c'est clair.
Tout à fait.
Eh bien, on vous souhaite une grosse bise, et puis, non, on vous souhaite une bonne après-midi, et on vous fait une grosse bise. C'est vendredi, hein, vous savez,
et
la fatigue de la semaine.
Du soleil.
Vendredi 13, exactement.
Oui.
Et Nasser, si vous le pouvez, restez à l'écoute, parce qu'à Valsoni, on y va dans quelques minutes, sur France Bleu.
Ok, je vous remercie bien.
Grosse bise, à bientôt, Nasser.
Au revoir.
Au revoir. Une heure en France, ça continue en musique avec Petite Marie, c'est un très très joli titre de Francis Cabrel. On remet les mots dans l'ordre, on fait comme ça, et on se retrouve juste après sur France Bleu. Il est 13h46.
Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi, pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri, sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi, d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois, de leur amour plus bleu que le ciel autour. Petite Marie, je t'attends transi sous une tuile, dont toi le vent de la nuit froide renvoie la ballade que j'avais écrite pour toi. Petite furie, tu dis que la vie c'est une bague à chaque doigt au soleil de Floride. Moi mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi, d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois, de leur amour plus bleu que le ciel autour. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi partir. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi, d'un musicien qui fait jouer ses mains sur
du Sud de Francis Cabrel. C'était Petite Marie sur France Bleu à 13h50. Je le fais très mal.
Une heure en France. Denis Farou, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Et à une semaine des vacances de Noël, des stations de ski ouvrent leur domaine dès ce week-end et certaines vous convient à une grande fête comme à Valsenis, en Savoie, près de la frontière italienne.
Donc. De la fondue au chocolat et des saucisses à déguster sur les pistes avant un concert de Charlie Winston. Mmh. Voilà le programme de la station.
Et c'est le directeur de la station qui nous entraîne dans Tous en Piste et qui est là. Bonjour Yves Dimier.
Bonjour.
Alors on commence par les festivités avant de voir le pourquoi de la fête. Quand on dit saucisse sur les pistes, c'est vraiment sur les pistes.
Oui, c'est sur le domaine skiable, positionné un petit peu partout, disséminé sur le domaine, que nous trouverons des stands gourmands avec soit de la nourriture, soit des boissons chaudes.
Oui. Est-ce que vous pouvez, Yves Dimier, expliquer à Frédéric ce que l'on va manger, en l'occurrence les Dio de Savoie, parce que je pense qu'elle ne connaît pas les Dio.
Je passe vraiment pour une imbécile tout au long de cette émission.
Pas du tout, pas du tout. Hors de Savoie, tout le monde ne connaît pas les Dio.
Alors expliquez-nous, Yves Dimier.
Alors les Dio, hein, je sais que des bons amis à moi sont en train de cuisiner et de cuire quasiment 8000 Dio en ce moment, parce que il en faut beaucoup pour nourrir tout le monde, hein, on attend 5000 personnes sur les pistes demain. Bon, les Dio, c'est tout simplement des saucisses qui sont faites principalement à base de porc et de bœuf, et qui seront servies avec la polenta, spécialité italienne, et nous sommes proches de l'Italie ici à Valsenis, donc voilà, des bons produits, mais après il y a beaucoup d'autres choses, des tartes au Beaufort, le fromage local que nos producteurs locaux font de manière excellente, la croziflette, c'est-à-dire des pâtes savoyardes avec du reblochon, et j'en passe bien entendu, des crêpes, des gaufres, du vin chaud, du chocolat chaud, tout ce qui va bien pour nous réchauffer, parce qu'actuellement nous avons des conditions hivernales.
Alors c'est bien effectivement de skier avant, au préalable, hein, avant de s'envoyer de la croziflette, des Dio et des gaufres.
Oui, en fait on pèse tout le monde. Hein, les skieurs vont d'un stand à l'autre, et s'ils n'ont pas de dépenser un minimum de calories,
vous ne les servez pas.
Yves Dimier, ce n'est pas la première fois que vous organisez Tous en Piste. Hein. Vous l'avez dit, plusieurs milliers de personnes répondent présents avec un forfait de ski qui donne droit à beaucoup plus. C'est une façon de se distinguer face à la concurrence, car évidemment la concurrence entre stations existe dans les Alpes comme ailleurs.
Oui, c'est un concept, hein, une idée qu'on a eue il y a 6 ans de ça, voilà, qui provenait à la fois d'une idée d'une balade gourmande sur notre piste verte, qui est la plus longue piste verte du monde, hein, la piste de l'Escargot. Et puis finalement, on s'est dit que non, les clients avaient besoin d'un peu plus de ski, un peu plus d'activité. Donc on est carrément allé sur le domaine. Hein, on offre 1400 mètres de dénivelé avec des stands gourmands disséminés un petit peu partout. Et le principe et le succès de cet événement qui maintenant on arrive au plafond, on peut pas aller au-delà de 5000 personnes. Le succès est vraiment basé sur le fait que ce sont tous les sociopros, les locaux, qui s'investissent bénévolement et qui font découvrir leurs produits, leur savoir-faire, leur convivialité à nos hôtes.
Yves Dimier, du coup, vous parlez de la spécificité de la région, mais ce sont aussi les habitants de la région qui vont venir pour cette fête, parce qu'il y aura moins de touristes, et c'est sans doute pour eux que vous faites plus ce week-end, non ?
Non. Alors bien sûr qu'il y a des habitants locaux, mais il y a heureusement, et c'est bien le but, il y a 60% des clients qui viennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
D'accord.
Mais on fait des packages avec deux nuits. On a aussi des gens qui viennent de très loin, hein, de la région parisienne, de Normandie, de Marseille, qui viennent passer un bon week-end convivial.
Et vous n'avez pas peur avec les grèves justement qu'il y a un peu moins de monde ce week-end?
Ah ben malheureusement ça nous impacte, on a beaucoup de téléphones en ce moment et on est désolé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients, enfin il y a quelques clients qui annulent malheureusement leur venue. et c'est regrettable.
Juste avant qu'on vous appelle, Yves Dimier, on avait un auditeur de la Loire qui nous disait qu'il était passé à Valsenis l'été dernier pour aller en Italie en empruntant le col. Et si je ne m'abuse, quand vous avez parlé de la piste de l'escargot tout à l'heure, eh bien c'est la route du col du Mont-Cenis pour aller en Italie l'été.
C'est tout à fait ça. Cette route a une vraie histoire, hein, puisqu'elle a été créée par Napoléon. À l'époque, Napoléon qui avait créé aussi un hospice au col du Mont-Cenis. Et ça, c'était bien avant la station de ski. Hein, et depuis que la station de ski est implantée ici, cette route, comme je le disais, est devenue la piste verte la plus longue du monde, avec 10 km de piste verte, qui était une belle balade en forêt, en face du parc national de la Vanoise.
Et vous nous le disiez, des conditions hivernales, c'est-à-dire il y a beaucoup de neige là déjà?
Oui, alors ils attendaient, on sait qu'il y a des grosses précipitations en ce moment en France, mais nous avons profité, comme souvent ici à Valsenis, en Haute-Maurienne, d'un beau retour d'Est fin novembre, avec plus d'un mètre cinquante de neige qui nous sommes arrivés au-dessus de 2000 mètres. Et depuis, oui, beaucoup de précipitations, il y a à peu près 30-40 centimètres de neige dans la station. Et ils en annoncent encore 20 à 30 d'ici demain soir.
Alors on va manger des Joe et de la fondue au chocolat sur les pistes. Et Charlie Winston, il va chanter où, les pieds dans la neige?
Bah, Charlie Winston, heureusement pour lui, il sera les pieds sur la scène qui est installée, dans la neige. Oui, actuellement, il y a beaucoup de neige autour de la scène. Et du coup, on a nos équipes qui sont au travail pour tasser le manteau neigeux pour que les spectateurs ne soient pas dans la poudreuse, mais sur une surface assez saine et ferme pour demain, sachant le principe, c'est que les gens descendent et se retrouvent en pied de piste pour assister à ce beau concert.
Est-ce que c'est encore plus dur aujourd'hui que les années précédentes d'être inventif autour des programmes d'une station de ski?
Ah oui, c'est indéniable, parce que voilà, le monde de la montagne peut être solidaire, aucun doute, mais après, toutes les stations sont plus ou moins concurrentes. Et effectivement, faut trouver des idées. Pour notamment sur des week-ends comme ça, de pré-saison, de faire venir des clients. Par contre, on va dire que voilà, ce qui est toujours incontournable et ce que toutes les stations ont, ce sont les belles montagnes, les beaux paysages et la neige. Et pour ça, on n'est pas vraiment concurrent, puisque tous les massifs français ont de très bons paramètres. Ouais.
Ouais. Tous en piste à Valsenis ce week-end. Vous payez un forfait samedi, vous avez droit aux... Comment elles s'appellent, les saucisses?
Les Dio.
Les Dio.
J'ai bien retenu.
Bravo. Et elle a fondu et au concert de Charlie Winston. Et puis
qu'on entend derrière. Hein.
Et puis dimanche, on skie gratis, Yves Dimier.
Oui, on skie pas gratis, mais ça fait partie du package.
Ça fait partie du package.
Quand on a participé à l'événement le samedi, on a le droit au ski le dimanche. Et on est content parce qu'autant les conditions météo vont être un petit peu délicates demain samedi, alors que dimanche ils annoncent grand beau temps, donc ça va être génial.
Ça va être top. Merci
alors,
beaucoup.
Alors tous en piste.
Merci Yves Dimier et bon week-end à
Merci
vous.
Merci à vous. Au revoir.
On vous souhaite de belles conditions météo entre autres. Merci. Au revoir. Une heure en France se referme. On a commencé aujourd'hui, Denis, avec... Je sais
avec
que vous voulez le redire.
La paraskevidé quatriaphobie, vous voulez dire.
Exactement, ce qui est la peur du...
Vendredi 13. C'était passionnant, cette peur du vendredi 13. On aime bien se faire peur, mais on a peur que ça nous porte malheur. Alors, de notre côté,
on ne sait plus quoi faire.
Pas trop.
On est un peu perdu. Et puis, on a continué avec quelque chose qui semble vous emballer, Denis Farou, le Run by Night.
Alors, pour ne rien vous cacher, ami auditeur, Frédéric Le Ternier, ici présente, n'est pas prête à courir la nuit avec une lampe frontale.
Bah, qu'on éteint surtout parfois.
Mais elle a décidé de ne pas décourager ceux qui seraient tentés par l'expérience.
Voilà. Chacun est libre, exactement. Vous avez raison de le préciser. Non, on plaisante, mais c'est vrai que ça a l'air intéressant d'essayer cette course. C'est très insolite.
Surtout quand on arrive devant la mer et qu'on ne la voit pas.
Éteint la lampe. Et puis, on a terminé avec vous l'avez peut-être entendu, l'ouverture de la saison à Valsenis, près de la frontière italienne et non grecque.
Avec de la fondue et des dios de Savoie.
Oui, des dios de Savoie. Et puis si on est sage, une croziflette, mais ça, on est pesé avant et après. Donc à définir, on revient lundi, Denis, si tout va bien.
Avec des écoliers des Côtes d'Armor.
Bon week-end d'ici là.